Toute mère de Dieu, réjouis-toi, mère de Dieu. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée d'entre toutes les femmes, réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. Mère, Dieu t'a choisi, porte-lui nos prières. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon. Mère, guide nos pas vers le Dieu de la lumière. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu.
Alors, nous allons commencer. Le thème, notre chemin de foi dans l'Église. J'ai personnellement déjà insisté ces jours derniers sur la nécessité de vivre en Église, de recevoir la vie spirituelle par les sacrements que le Seigneur a confiés à son Église, de sorte que c'est l'Église qui est mère de vie spirituelle. Elle est mère en nous donnant tout ce qu'il nous faut pour vivre notre éducation d'enfant de Dieu, notre vocation d'enfant de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a institué, qui lui a donné d'administrer ses moyens de grâce, que sont les sacrements, et qui nous sont absolument nécessaires pour avancer dans la divinisation de nos êtres. C'est le Saint-Esprit qui les confectionne dans les paroles du Christ en leur donnant leur pleine efficacité. Ainsi, paroles et sacrements constituent les moyens d'accomplir notre chemin de sainteté qui est notre appel, notre vocation. Pour prendre un exemple, celui de l'Eucharistie que vous connaissez déjà bien, bon, mais je le répète simplement. La théologie occidentale, notre Église d'Occident, enseigne avant tout que ce sont les paroles du Seigneur qui réalisent la présence eucharistique. C'est vrai, nous ne dirons pas le contraire, mais le rôle du Saint-Esprit n'est pas apparent dans cette vision des choses. L'Orient insiste avant tout sur le Saint-Esprit. Et on peut donc dire, et d'ailleurs le Concile, dans l'Eucharistie numéro 3, a en fait exprimé l'action du Saint-Esprit avant et après. Ça veut dire que, en fait, c'est les paroles du Seigneur Jésus lui-même qui sont les paroles de la réalisation et de la manifestation de tous ces mystères. Mais cela se réalise par la puissance du Saint-Esprit. De sorte qu'il est nécessaire de dire que c'est les paroles effectivement du Seigneur, mais qui des paroles qui agissent dans la puissance même du Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui avant tout est l'artisan de notre vie spirituelle. Et le Seigneur lui-même nous a donné le Saint-Esprit pour accomplir ce service de notre divinisation. Donc, nous allons aujourd'hui, tout à l'heure, rappeler la foi de l'Église dans laquelle nous recevons la nôtre. Et cette foi demande d'être toujours mieux connue de notre part, parce que c'est l'Église qui est maîtresse et éducatrice de notre foi. Autour de nous, beaucoup de, même de catholiques disent qu'ils sont catholiques, mais qu'ils ne connaissent pas en fait ce que l'Église enseigne et n'ont pas de souci ou d'intérêt pour le savoir. Ou bien alors, vous entendez dire qu'ils ont des croyances qu'ils pensent peut-être être celles de l'Église, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'enseigne l'Église. Ben, le Seigneur nous a donné à nous de pouvoir, pendant toutes ces années, de creuser, de travailler pour mieux comprendre ce qu'est la foi authentique de l'Église. Alors, premièrement, je vais faire avant de commencer directement par l'étude du credo de la foi, qui sera l'objet essentiel là, de cette rencontre. Je vais commencer par dire que la connaissance universelle de Dieu. Nous avons réaffirmé plusieurs fois que l'homme a été créé à l'image de son Créateur. Et que, de cette façon-ci, on peut affirmer que Dieu est le Père de tous les hommes qu'il aime d'un amour miséricordieux. Et de sorte que tous les hommes, de toutes les cultures, peuvent comprendre qu'ils ont un Père, que Dieu est Père, qui leur a donné l'existence. Et qu'ils ont... Ils sont construits par Dieu avec cette conscience qui peut leur servir de loi, quand eux-mêmes n'ont pas la loi évangélique que nous avons. C'est, comme dit Paul, c'est la conscience alors qui leur sert de loi. Cette parole, la parole avait été donnée d'abord à Israël en plénitude, mais c'est tout. En fait, les peuples de l'Orient chrétien qui ont pu connaître la parole. Il y a quelque chose de tout à fait un peu surprenant, moi ça m'avait beaucoup surpris quand même, quand on revoit un peu toute l'histoire, disons qu'on essaie de comprendre un peu l'histoire, et que l'on voit que Dieu a suscité Abraham vers les années 1800, très bien. Mais à ce moment-là, il y avait combien déjà de siècles où les hommes vivaient avant même que la révélation ait été donnée à Abraham. Il y avait les civilisations très riches, sumériennes, babyloniennes, acadiennes, qui peuvent remonter jusqu'au 4e et même 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à 3 et 4 000 ans avant Abraham. Alors comment ? La question que je me suis posée, c'est comment alors l'homme de ces lointaines années pouvait-il vivre une vocation, sa vocation de créature de Dieu, sans la révélation qui ne viendra que 2-3 000 ans après. Eh bien, c'est tout à fait... Je ne vais pas rentrer dans cette étude-là qui est très riche, parce qu'on s'aperçoit que ces hommes-là avaient aussi même... Si leur conscience était enténébrée, comme le dit saint Paul, ils avaient quand même une vie de prière et une certaine connaissance de Dieu comme Père. Et on a de très très belles prières qui nous sont laissés, qui nous sont conservés de ces anciennes civilisations avant même que le Seigneur ne s'adresse à l'un d'eux qui s'appelle Abraham et qui faisait partie donc de ces civilisations. Mais là, on voit que le Seigneur avait donné vraiment un coup de pouce pour que l'histoire, à ce moment-là, avance. Et puis l'autre coup de pouce pour qu'au moment qui devait préparer la venue du Seigneur Jésus. Alors on a un tableau comme ça devant soi, hein, de toute une histoire humaine, où on voit que Dieu est vraiment, même si la conscience des gens n'est pas aussi claire qu'elle le sera ensuite après la révélation avec Abraham, néanmoins, eh bien, on voit que le Seigneur qui a créé les hommes, il les a toujours aimés, il les a toujours donnés suffisamment aussi pour pouvoir prier. L'essentiel pour eux comme pour nous, c'est la prière. C'est la prière qui fait l'union à Dieu, plus encore que la réflexion, c'est la prière. Eh bien, Dieu leur a donné cette possibilité d'une vie de prière, qui parfois sont des prières très émouvantes, puisqu'elles manifestent la véritable nature de Dieu. Par exemple, un petit exemple, je vais vous en donner quelques-uns quand même. Ta parole, par exemple, un exemple que l'on trouve donc dans ces civilisations, qui sur les tablettes d'argile de Sumer, par exemple, où on a réussi avec beaucoup d'intelligence à déchiffrer en fait cette écriture cunéiforme. Eh bien, on trouve par exemple certains témoignages de cette prière, comme par exemple quelqu'un qui avait écrit « Ta parole, filet sublime, s'étend sur le ciel et sur la terre, elle tombe sur la mer, et la mer est houleuse, elle tombe sur les flots de l'Euphrate, et le monde de Marduk agite les vagues profondes. » Cette conscience que Dieu agit, qu'il est le créateur du monde et qu'il est là et qu'il a une action sur les choses. Ou par exemple, quelqu'un qui se tourne vers son Dieu et qui écrivait, donc il y a combien de milliers d'années de cela, hein, au moins 4000 ans. Parce que si, par exemple, civilisation remonte jusqu'à 3 et 4000 ans, vous vous rendez compte, après il y a eu presque 2000 ans de l'Ancien Testament, puis il y a presque 2000 ans encore pour nous depuis, ben ça fait un calcul extraordinaire de voir qu'on va plonger dans un regard d'humanité sur une humanité qui a déjà peut-être 6 ou 8 000 ans. Quoi. C'est étonnant, mais j'ai trouvé que c'était étonnant. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ça. Je me suis même allé... quand j'étais à Paris, j'ai essayé d'aller dans des musées pour essayer de voir un peu plus ces questions de ces civilisations acadiennes, muséennes, sumériennes, etc. Parce que, dans le fond, pour moi, ça a été une contemplation, quoi. Et c'est un peu comme si on allait à la recherche des traces de Dieu on peut le faire au niveau de l'univers, mais on peut le faire aussi dans cette conscience humaine, de porter même le plus lointain possible, même après la chute, parce que c'est peut-être juste à ce moment-là que la chute étant là, les hommes ont chuté. Et néanmoins, ce n'est pas une vision d'évolution, parce qu'il y a une vision d'évolution, puis il y a un moment donné où le Seigneur a créé vraiment un homme, et c'est cet homme-là ensuite qui a chuté, mais il a chuté dans une condition historique quand même. Hein. Et alors, c'est là qu'on retrouve nos ancêtres, et que d'une certaine façon, ce qu'on appelle la communion des saints, ben, là aussi, c'est merveilleux d'être à la recherche de ces anciens, puis d'écouter, par exemple, quelque chose comme ça. « Je me suis tourné vers toi, mon Dieu. Je suis venu en ta présence. Je t'ai cherché, mon Dieu. Je me suis agenouillé à tes pieds. Accueille mon imploration. » Quelqu'un qui dit cela, il y a 4000 ans, il y a 2-3000 ans avant Abraham, quand même, il a une connaissance quand même extraordinaire de Dieu.
C'est... On fait abstraction de tout ce qu'il y a eu antérieur dans l'évolution de l'homme aussi. À quel moment l'Église situe entre l'Australopithèque et puis Néandertal et tout, je ne sais pas.
Alors là, je crois que l'Église ne met pas un point. Elle dit simplement qu'il y a quand même il y a deux grands coups de pouce. Non, il y en a trois. Il y a le coup de pouce de la vie. Il y a le coup de pouce ensuite de la vie. De la présence, de la venue de l'esprit ensuite. Ça, je crois qu'on peut trouver ça. Je crois que c'est. Il y a une dernière grande travaux, des grands travaux qui ont été faits dernièrement par l'ancien pape là sur cette question-là. Oui, trois. Il y a des. Comment on pourrait dire des. Oui, c'est. Enfin, des événements d'intervention de Dieu à l'intérieur, par exemple, d'une évolution qui fait que. Il y a un changement complet et on n'a plus un animal, on a un homme par le fait de don de l'esprit. On pourrait lire la Genèse de cette façon-ci, mais ça, ce serait vraiment un autre travail, quoi. Mais voir qu'effectivement, à travers même la matière par laquelle le Seigneur prend pour insuffler, pour créer un être vivant, enfin, animé, et puis avec la rouar qu'il met dedans. On peut voir qu'il y a d'abord toute une matière préexistence. Là, lui, il ne le savait pas, le bonhomme qui a écrit ça. Mais maintenant, on peut très bien interpréter en voyant qu'effectivement, il y a toute une évolution à partir de laquelle le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille toujours, c'est ça qui est remarquable, il travaille toujours à partir de quelque chose qu'il a créé et il l'améliore. On voit que c'est une évolution constante, la nôtre aussi, puisqu'on s'en va vers l'univers. C'est-à-dire on va de stade en stade et on avance. Et la vie spirituelle, c'est d'avancer d'étape en étape. Le Seigneur le fait toujours à partir des choses qu'il crée. Il les améliore, il pousse le cochonnet au fur et à mesure du temps. Donc là, il y a eu un moment donné où il y a eu une insertion, si on veut, de l'esprit, une infusion de l'esprit, dans certainement d'une réalité toute simple, première, qui venait de l'évolution. Mais il en sort un homme. C'est-à-dire que c'est pas après. Alors après, il y a une deuxième intervention extraordinaire dont le pape parlait, c'est en fait l'incarnation du Fils de Dieu. Et celle-là, c'est le dernier grand coup de pouce avec la résurrection, etc., que le Seigneur a fait. Mais... Moi, on est revenu là, si on parle de cela, c'est que je trouve que c'est tout à fait étonnant, pas étonnant, mais que c'est tout à fait remarquable de voir que le Seigneur, même après la chute, pour ces hommes qui ont vécu donc si loin, tant d'années avant la révolution, avant la révélation biblique, de savoir qu'ils portaient en eux encore cette conscience et la capacité d'une prière comme celle-ci. À qui te fait du mal, rends le bien en échange. À qui est méchant pour toi, reste juste avec lui. Ceux qui sont dans l'épreuve, ne les prends pas en dédain. Fais des gestes secourables. Rends tous les jours service. Ne calomnie pas, mais dis de bonnes paroles. Ne tiens pas de méchants propos. N'aie que des mots de bonté à la bouche. Bon, et vous trouvez ces sortes de prières dans tous ces récits de Sumer et de ces premières civilisations. C'était simplement pour dire que notre Dieu est pour chacun de nous et pour tous les hommes qu'il a créés, il est miséricorde, il est bonté, il est présence. Voilà. Alors il est d'autant plus que pour nous, parce qu'il nous a donné la connaissance révélée de lui-même. Et cette connaissance a commencé à se faire beaucoup plus précisément, si on veut, parce qu'elle devait mener jusqu'à l'incarnation. Mais en fait, Abraham était simplement un homme de ce premier temps des civilisations. Pas plus que ça. Les Hébreux n'étaient simplement que des pauvres gens aussi de ce premier milieu. Et on voit, c'est la raison pour laquelle Dieu essaie de les éduquer. Et on voit qu'ils ont les mêmes problèmes que l'ensemble des autres hommes, c'est-à-dire l'idolâtrie, c'est-à-dire toutes les pratiques magiques, etc., et que les prophètes ont été obligés de lutter contre cela pour essayer d'élever un peu le niveau de ce peuple-là qui est choisi et qui doit aboutir à l'incarnation. Mais c'est très important encore de se rendre compte, et ça permet de voir la Bible, de lire l'Ancien Testament, en se rendant compte que, en fait, c'est l'homme de l'Ancien Testament, c'est l'homme de Sumer, c'est l'homme de toutes ces civilisations d'avant. Il n'est pas plus avancé. Les Hébreux n'étant pas plus avancés, ils ont été pris là. C'est un petit groupe d'apirous là, qui était au fond du Caucase. Et puis le Seigneur, un jour, s'est révélé à eux. Et c'est eux qui sont à l'origine. « Mon père était araméen », dit la parole au départ. C'est ce petit groupe-là duquel va naître Abraham, et puis voilà que va se mettre en marche une nouvelle, une révélation, avec elle une animation intérieure qui va être la venue de l'incarnation du Seigneur Jésus. Et puis après, la continuité se fait avec l'Église. Cette révélation, qui a saisi à un certain moment un homme et donc la civilisation à un certain moment pour la transformer, elle se poursuit. Et nous en sommes, nous, les héritiers. Mais c'est bien de savoir que nous venons de loin, que le Seigneur est toujours et va vraiment au cœur même de cette humanité qui ne cesse pas de malaxer, d'enrichir, jusqu'à ce que, comme dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la réalisation des promesses qui vont nous amener ensuite vers un autre monde qui est celui du royaume. Et c'est toujours par des commencements et des recommencements, des étapes, et même dans nos vies, que le Seigneur se réalise, il réalise sa présence et nous donne une lumière de plus en plus grande des mystères. Saint Grégoire de Nice, au IVe siècle, Saint Grégoire de Nazianze, par contre, au IVe siècle, écrit ceci, « L'Ancien Testament ». Alors, là aussi, c'est que je trouve qu'on parle très peu de ces civilisations, c'est pourquoi j'en parle un petit peu, dans toutes les études bibliques. On commence toujours les études bibliques, souvent, par Abraham, voilà. Mais il y a toute l'épaisseur de ces 3-4 millénaires avant. Et ça, on l'oublie. Enfin, ça, c'est une petite remarque. L'Ancien Testament a clairement annoncé le Père, dit Saint Grégoire de Nazianze, et le Fils d'une manière obscure. Le Nouveau Testament a révélé le Fils et il a fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Et maintenant, l'Esprit habite parmi nous et se manifeste plus clairement. Quand la divinité du Père n'était pas encore reconnue, il n'aurait pas été prudent d'annoncer ouvertement celle du Fils, puisque celle du Père n'était pas encore suffisamment prévue et suffisamment claire dans la conscience des hommes. Et quand la divinité du Christ, du Fils, n'était pas encore admise, il ne fallait pas l'imposer, si j'ose dire, comme un fardeau nouveau aux hommes, en leur parlant du Saint-Esprit. Ce n'était pas l'heure encore. Sinon, tels des gens fatigués par une nourriture trop lourde, ou bien qui ont regardé la lumière du soleil sans se protéger, avec des yeux encore malades, ils auraient risqué de perdre les forces acquises. Il fallait donc procéder par des perfectionnements successifs, par des ascensions, suivant le mot de David. Il fallait avancer de clarté en clarté, par des progrès et des poussées toujours plus brillantes, pour voir enfin la lumière de la Trinité. C'est donc pour cette raison qu'il se communique progressivement aux apôtres et se mesurant à leurs capacités. En fait, la révélation de Dieu qui est en cours, nous savons suffisamment par l'Église pour vivre notre vie de prière et notre ascension mystique vers Dieu. Mais il faudra peut-être toute l'éternité encore pour continuer à marcher vers Dieu sans fin. Donc nous sommes simplement en chemin, vraiment, en train d'avancer progressivement dans des illuminations successives qui sont à la fois des illuminations de l'esprit et puis des réalisations d'amour de Dieu et des uns et des autres, de vie fraternelle. Le Seigneur Jésus nourrit, donc va réaliser cette dernière révélation à partir de son peuple. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, il n'est pas un en lui-même, il est trine, disait la première, l'Ancien Testament en fait. Alors, c'est-à-dire que là, on le sait bien, plusieurs fois je crois on en a parlé, c'est un monothéisme absolu qui a d'abord été une des premières révélations données à Moïse. Et on est là aussi, il faut décrypter tout ce qui s'est passé au moment de cette révélation. Je suis celui qui existe de toute éternité. Cette révélation d'une existence absolue de Dieu, hein, qui se manifeste et qui donne son nom, un nom mystérieux, un nom devant lequel chacun de nous, ben, nous nous agenouillons et nous en percevons davantage le contenu grâce à la révélation que nous a apporté le Seigneur Jésus, mais qui reste mystérieux. Alors, je passe tout ça. C'est une introduction, si vous voulez. On pourra reprendre quelques aspects du chemin Israël, de cette première confession de la foi d'Israël, mais on va directement à la confession de l'Église, parce que c'est quand même le thème le plus important, après avoir fait cette introduction qui est une vision globale d'une histoire dans laquelle nous sommes insérés nous-mêmes. Ouais. L'Église va confesser la Sainte Trinité, et pour cela, elle a dû elle-même traverser des crises sérieuses qui auraient pu faire dévier sa confession de foi. Elle a cherché à tâtons, elle s'est réunie dans les meilleurs spécialistes, les meilleurs connaisseurs et théologiens des premiers temps après le Christ pour essayer de comprendre au fur et à mesure ce mystère de la présence du Christ lui-même, qui il était. Quel était ce Dieu et qu'il venait nous annoncer. Et tout ça n'a pas été clair du jour au lendemain. C'est pourquoi il est bon, si vous voulez, vous connaissez ce cheminement, mais je voudrais vous le rappeler, ce que fut les 7 conciles écuméniques qui ont permis de rendre plus clair aux yeux de l'Église elle-même la nature, la réalité de ce Dieu qu'elle professait et qu'elle annonçait. Le premier, c'est Nicée en 325. Puisque s'était élevé un prêtre du nom de Arius qui niait la divinité du Christ en disant que c'est un petit peu... comment on pourrait dire, oui, que le Fils est intérieur au Père. Le Fils est inférieur au Père. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu normal, quoi, cette réaction. Parce que quand on lit l'Évangile, les Juifs eux-mêmes sont pris dans cette question. Jésus apparaît comme un homme. La conscience que l'on a de Dieu est tellement infinie. Comment peut-on... On ne peut pas dire autre chose que le Fils, eh ben, il est inférieur au Père. Et alors... Comment ?
S'appuyer sur la phrase du Christ, le Père est plus grand que moi.
Et oui, et le Père. Alors c'est là que nous, on a fait la. Oui, que le. Et ensuite, oui, c'est ça. Oui, et puis en s'appuyant sur cette parole-là. Ça veut dire que ce n'est pas du tout sans fondement qu'ils annonçaient cela. Oui, c'est très juste. Quand, dans la parole, il s'appuyait sur certaines paroles du Seigneur, effectivement. Le Père est plus grand que moi. Bon, ben, donc, lui, il est inférieur au Père. Hein, merci, Jean-Louis. Donc, il a fallu qu'elle rectifie cette hérésie, parce que à partir de ce moment-là, ben, la Trinité n'existera plus. C'est déjà une conséquence de nier ce que l'Église doit annoncer et va découvrir... d'un Dieu Trinité. Ensuite, alors ils l'ont fait, le résultat, ça a été de donner un mot qui s'appelle consubstantiel. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé, que le Concile a annoncé, que c'était une même substance, c'est une même réalité profonde qu'il y a entre le Père et le Fils. Une même identité de substance, à la fois de vie, de profondeur d'existence, d'être, etc. C'est, tout ça est mêlé dedans, quoi. C'est tout un ensemble de choses, quoi. Donc, ça a été déjà une première affirmation qui nous menait vers, déjà, beaucoup plus de clarté sur ce qu'était le Christ. Parce qu'à ce moment-là, si on le fait égal... en substance au Père, on a devant nous quelqu'un qui n'est pas qu'un homme, qui est déjà est le Fils de Dieu. Ensuite, il a fallu, on a poursuivi en 381, donner un nouveau concile qu'on appelle Nicée-Constantinople, et qui va donc apporter un ajout au premier concile, et alors cet ajout va être très important parce qu'il va déjà délivrer une certaine connaissance de l'esprit. Ensuite, c'est Éphèse, en 431, à nouveau contre un autre homme qui s'appelle Nestorius, et qui lui reconnaît bien qu'il y a deux natures dans le Christ, mais... il n'y a pas d'union entre elles, parce que le premier concile, c'est Chalcédoine après qu'il affirmera cela. Parce que s'il y a deux natures dans le Christ, pour lui, il n'y a pas d'union entre elles. Alors on a deux bonhommes dans un, en fait. Alors, à partir de ce moment-là, s'il y a deux réalités, s'il y en a dans le Christ... une partie qui est humaine, une autre partie qui est divine. La Vierge Marie, elle a enfanté quoi? Elle n'a pu enfanter que la partie humaine. Elle n'a pas pu enfanter la partie divine. Donc, elle est la mère du Christ. Bah oui, mais ça va contre ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y avait une unité dans le Christ qui était aussi... qui était égal au Père, donc à partir qui était divin. Alors il faut dire, non, on va rectifier, on va dire, mais non, Marie n'est pas que la mère du Christ, elle est la mère de Dieu. Elle est la Théotokos. Hein. Donc ça avait rejailli sur l'identité de la Vierge Marie. Elle est reconnue comme mère de Dieu et pas seulement comme mère du Christ. Et puis alors, il fallait aller maintenant... On affirmait qu'il y avait deux personnes distinctes, deux personnes. Et ils disent deux personnes distinctes qui n'ont pas de relation entre elles. Ah ben, il faut aller plus loin. Il faut dire, mais non, il y a effectivement des relations entre la nature humaine de Jésus, que l'on a vu.
C'est deux natures, là, tu veux dire. C'est deux natures, ce n'est pas deux personnes. Tu veux
Pardon ?
Tu dis, il y a deux personnes, c'est deux natures.
C'est deux natures, c'est deux natures dans la même... Oui, c'est deux natures dans la même personne. Voilà, il y a une seule personne, il y a ces deux natures. Et ces deux natures sont cloisonnées. Alors... ce qui avait donc donné le don fou de la Vierge Marie, qu'elle n'était simplement que la mère du Christ et non pas de la mère de Dieu. Et alors il faut aller maintenant, il faut aller plus loin parce qu'on se dit non, c'est le Christ, on voit bien qu'il a une unité. Il dit le Père et moi nous sommes un, etc., etc. Donc il faut aller un peu plus loin et on reprend le problème. Dans un autre concile qui s'appelle le concile de Chalcédoine de 451. Tu l'avais dit la dernière fois, au cours de... Je ne sais plus à quel moment, tu avais annoncé les quatre aspects là, de la nature.
Hier, oui.
Oui, c'est hier, oui. Et là, on va définir que... Peut-être que c'est un peu désopilant, peut-être, de faire ces choses-là. Mais c'est nécessaire, parce que c'est de là que sort la véritable foi de l'Église, quoi. Alors là, on va dire, c'est toujours la même personne. Et cette personne, nous allons l'affirmer, c'est le Verbe de Dieu. Mais alors, comment c'est en lui se réalise la... cet aspect complexe qu'il a en lui-même, d'avoir une nature humaine, une nature divine. Est-ce qu'il y a une unité qui peut se faire ? Est-ce qu'on ne peut pas accepter que ce soit cloisonné ? Parce qu'on voit bien que le Christ réagit de tout son être par rapport au Père, etc. Donc, il y a dans... Et comme dans une personne, autrement, ce serait une espèce de comment j'avais le mot de maladie, quoi, qui sépare la... Oui, c'est ça. Ben oui. Donc il faut une unité, il faut trouver l'unité.
Oui, alors ça a été un... encore des chrétiens qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire il y a le monde du travail et il y a le monde où je suis chrétien. Ça colle pas, quoi.
Ben oui, non, ça colle pas, bien sûr. Bien sûr. Et nous sommes tous, ça c'est un problème même pour nous, nous sommes tous à notre recherche d'identité profonde, enfin d'unité profonde de notre être. Ce problème qui a été pour l'Église est vrai aussi pour chacun de nous, pour faire de nous des fils de Dieu, c'est-à-dire pour arriver à élever notre nature humaine aussi, jusqu'à une divinisation de notre être. Et on voit que là aussi, il y a tout un parcours. Et là, c'était expliquer quelque chose de beaucoup plus important, comment dans le Christ se réalise cette unité. Alors, on n'a pas été capable de dire les conclusions d'une façon positive. On les a dit d'une façon négative. Et c'est très important. Parce que ça ouvre encore peut-être parce qu'on ne peut pas y arriver non plus, parce qu'on est devant un mystère qui nous dépasse. Et alors on va simplement dire que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas cela. Donc ce qui n'est pas dans la première, la nature humaine, il n'y a pas de confusion. Elle est sans mélange. Donc, on ne va pas faire une confusion. Elle est sans mélange. C'est-à-dire que la nature humaine, elle est pure dans le Christ. Vraiment pure. Jésus est vraiment homme. Et en même temps, la nature humaine, la nature divine, elle est tout à fait pure aussi. C'est vraiment le Jésus porte en lui. Il est Dieu parfaitement. Bon, premièrement, il n'y a pas de confusion, hein, comme nous, on pourrait en avoir dans l'esprit, etc. Là, il n'y a pas de confusion. Bon, sans confusion. Mais il faut aussi qu'il y ait une communication. Donc il ne va pas d'abord, je ne sais plus les mots, moi je ne les ai pas là en ce moment, sans confusion, sans mélange, voilà, autre chose sans mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mélange de l'un dans l'autre, etc. Elles sont chacun ce qu'elles sont. Ensuite, sans mélange, sans confusion, il y a deux autres qualités encore, et elles vont communiquer, elles ne sont pas non plus isolées l'une de l'autre. Elles ne sont pas isolées complètement. Donc il va y avoir une communication, ce qu'on appellera après la communication des choses qui sont excessivement propres à chaque nature, qu'on appelle l'idiome, c'est-à-dire ce qui est particulier, propre à une nature divine et à une nature humaine. Ça va pouvoir être en dialogue, si on veut. Ces deux natures vont pouvoir être en dialogue. Donc dans le Christ, on le voit bien, il va pouvoir prier avec son humanité, il va pouvoir prier le Père, puisque la nature humaine n'est pas fermée à la nature divine. Il y a une communication. Ça, c'est très, très important, parce que ça nous ouvre à la vie spirituelle. Il n'y a pas de mélange, mais il y a essentiellement une communication. Utilisez les quatre...
Je cherche la définition, là. Oui, alors moi je vois, non, ça c'est en français, un seul et même Christ, Fils, Seigneur, unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation.
Voilà, sans division, sans séparation.
La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée,
voilà, c'est ça.
Concourant à une seule personne et une seule hypostase. Un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis.
Voilà. Et alors l'autre aspect, c'est que à un certain moment là, qui était important dans cette définition. Après les confusions et le, c'est pas fragmenté.
Voilà, pas fragmenté.
Voilà, ça c'est important. C'est pas des morceaux, si vous voulez. C'est pas des morceaux de divinité qui sont dans le Christ. Et tout ça veut dire que si c'était des morceaux, ça apparaît un moment, puis c'est pas sûr que ça n'apparaisse ça après.
Est-ce que ça amène une lumière sur la conscience qu'a Jésus de sa divinité, ça?
Oui.
La communication entre les deux natures.
Alors après, cette conscience, aujourd'hui encore, on en discute beaucoup, quoi. Il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus, sur cette conscience. Moi, il me semble qu'on peut en conclure quand même que le Seigneur a très bien conscience, quand il prie le Père, il est conscient que lui, si nous ne le sommes pas, lui, il est quand même conscient d'être le Fils. D'être fils, il l'annonce comme tel, c'est tout son évangile, d'annoncer qu'il est le fils, et puis qu'ensuite, Saint Jean va dire, dans le prologue, quoi, que c'est le Verbe fait chair, quoi. Donc il a lui-même, en tant qu'homme, il a une conscience humaine comme nous avons une conscience humaine, mais cette conscience humaine, elle est quand même, on va pas dire qu'il l'a trouvée un jour, ou alors c'est ça. Ça, après, c'est une autre question qu'on peut lire. C'est que dans son évolution humaine, progressivement, il a pris conscience d'être fils de Dieu. Moi, je rentre pas là-dedans, moi, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il a toujours eu cette conscience, quand même.
Comment ?
Pourquoi tu ne rentres pas dedans ?
Eh bien, je ne rentre pas dedans parce que je pense... qu'à l'incarnation, c'est le Verbe de Dieu qui a été incarné, et qu'effectivement, il a pris un chemin humain. Ça, je ne dis pas qu'il a eu une évolution de sa nature humaine. Ça, je crois que c'est vrai. Il manifeste à certains moments, enfin, il a été comme... Il a même manifesté qu'il y avait des choses qu'il ne savait pas, que seul le Père sait, par exemple, la fin du monde. Et que quand il a appris comme tout le monde, il a été à l'école comme tout le monde. Donc il a eu une évolution normale de son identité humaine. Mais cette identité humaine, elle est toujours divine. Alors c'est comme... c'est difficile, bien sûr, c'est difficile. On est en face du mystère, on ne sait pas comment se réalise.
À sa bar mitzvah, le Christ a dit, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père.
Ben oui, ben oui. Mais on va trouver...
À sa bar mitzvah, quand il devient vraiment pleinement adulte juif, devenant adulte juif, il dit, il faut que je sois aux affaires de mon père.
Et puis alors, cette conscience, bon, c'est déclaré là, mais il a toujours eu. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est par exemple des apocryphes qui vous disent qu'il soufflait à un moment donné comme enfant, enfin des choses même ahurissantes, qu'il était avec d'autres enfants, et puis il y a eu... une rixe ou quelque chose, il a soufflé dessus et puis les autres sont devenus boiteux ou je ne sais pas trop quoi. Donc, d'utiliser en fait sa nature divine, oui, mais on arrive à ces aberrations-là. Donc, il faut éviter.
En revanche, on peut penser, même si ce n'est pas dit du tout dans la révélation, on peut penser que dans la discussion avec Marie et avec Joseph, il y avait des choses qui sortaient, certainement.
Ben oui.
Mais on ne sait pas lesquelles, à part ce qu'il nous est dit dans l'évangile. Il en parle pas mal, Benoît XVI, alors le livre s'appelle « La vie de Jésus ».
Oui, oui.
Oui, car Marie avait quand même une connaissance extraordinaire de l'Ancien Testament et tout ça.
Oui, de tout cela.
Sa mère aussi.
Et en même temps, il y a beaucoup de choses qu'elle ne savait pas.
Mais non, il y a beaucoup de choses qu'elle ne savait pas. Et puis alors, il grandit en taille et en sagesse. Ça veut dire là aussi très profondément qu'il a pris vraiment une réalité humaine, qu'il y a une réalité profondément humaine dans le Christ, à un point tel qu'on ne peut pas arriver à voir sa divinité. C'est la raison pour laquelle après les Juifs ne peuvent pas arriver à voir en lui un fils de Dieu lui-même, quoi. Bon, ben ça, c'est encore une autre affaire. Mais alors, Chalcédoine est un des moments très importants pour affirmer que Jésus est le Verbe de Dieu, avec ses deux natures divines, humaines, qui restent vraiment chacune ce qu'elles sont, et en même temps qu'elles sont en dialogue. Ce qui fait qu'au moment de la croix, on l'a dit hier, eh bien, on peut très bien penser que la nature divine a reçu quelque chose de la nature humaine, cet écho de la souffrance que vivait la nature divine, la nature humaine, a été aussi perçu par le Père, puisque entre le Fils et entre Jésus, le Verbe de Dieu, et le Père, ils sont consubstantiels, ils sont de même nature profonde. Donc, s'il y a eu un dialogue entre l'un et l'autre, comme par exemple au moment de la tempête, il y a la nature divine qui va agir pour le Christ, pour dire « tais-toi », puis alors les lois de la nature vont être complètement, extraordinairement transformées à ce moment-là. Donc, il y a un dialogue entre l'un et l'autre, entre les deux natures, dans le Christ. Ensuite...
Il y a quand même un problème, excuse-moi.
Oui, au contraire.
Il y a une hérésie qui a été dénoncée, qui est le patripassianisme.
Oui.
C'est considéré comme une hérésie de dire qu'il y a une souffrance du Père. Alors, c'est délicat.
Alors,
le Père, plus exactement, pas qu'il y a une souffrance du Père, que le Père a subi la passion. Parce que
ça, non, le Père...
Certains en arrivaient jusqu'à
oui,
dire
oui,
que
c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, alors, c'est le patripassianisme. Mais c'est là, le Père est resté divin. Mais on peut rester, il pouvait rester tout en disant la conscience et l'écho de tout ce qui se passait dans son Fils. Il n'a pas été quand même... Alors que ce mystère, qu'on n'arrive pas, parce que là aussi, on met des mots, on essaie de comprendre, hein, à travers tout cela, essayer de voir, quand je dis par exemple un dialogue, ben c'est pas écrit ça, le mot dialogue, ça n'a pas été écrit dans la théologie, mais pour essayer de comprendre comment on correspond d'un côté comme de l'autre. On emploie des mots comme on peut pour essayer de dire quelque chose du mystère, quoi. Hein. Et là, on va éviter effectivement que le Père, ben la transcendance du Père est telle que, et même celle du Verbe, on se demande même comment, comment il a pu s'incarner, comment... Et c'est toute la question. Bon, l'islam refusera toujours cela, qu'un Dieu puisse prendre chair, etc. Et même les Juifs ne peuvent pas y arriver. Bon, peut-être qu'ils ont une notion, une conscience de la transcendance infiniment élevée qui les empêche d'avoir cette vision des choses. Le deuxième Constantinople, en 553...
C'est le cinquième concile.
Oui. Et c'est Constantinople II, puisque le premier Constantinople était avant. Là, le pape lui-même va affirmer la foi d'Éphèse contre le nestorianisme qui avait créé un monophysisme. C'est-à-dire que Nestorius, qui avait dit qu'il y avait deux natures qui étaient complètement opposées l'une à l'autre, complètement, totalement, sans aucune relation, faisait en sorte que on pouvait penser que dans le Christ, alors, tout ce qui était, c'était Dieu qui agissait là, et d'une certaine façon, la nature humaine, qu'on voyait bien dans le Christ, mais elle n'avait pas beaucoup d'importance. Et en fait, c'est toutes les églises actuelles, les églises orientales, qui insistent sur l'autre côté. Elles sont toutes plus ou moins nestoriennes, puisqu'elles insistent davantage sur le côté transcendant, sur le côté de la nature divine. Et nous, en Occident, on est plus du côté de la nature humaine, quoi. Mais le monde oriental, je me souviens encore telle personne qui me disait, on est quand même, pour eux, c'est beaucoup plus, Jésus est beaucoup plus Dieu qu'humain, quoi, voilà, si vous voulez. Alors là, c'est d'une certaine façon, ça arrive à, si on va à l'extrême, il n'y a plus qu'une nature. Et on va dire que ces églises sont monophysites, au sens qu'elles n'ont plus qu'une nature, elles ne voient plus dans le Christ qu'une nature divine, quoi. Alors ce qui fait un culte, ce qui fait une célébration qui est beaucoup plus... qui est attachante, quoi, hein, mais qui fait les grandes célébrations eucharistiques d'Orient, où on insiste avant tout sur le monde céleste, etc. Et le risque, c'est d'oublier la partie humaine, quoi.
L'inverse est vrai aussi.
Bien sûr.
L'inverse est vrai aussi, parce qu'il y a trop d'horizontalité.
Voilà.
Et la verticalité.
Voilà. Et là, et alors ça, c'est le côté de ces églises-là. Et puis nous, on ne va pas dire qu'on est nestorien, mais c'est vrai qu'on a un risque monophysite, nous aussi, quoi. Voilà. Alors, vous voyez, mais l'importance, c'est de voir que l'Église, dans le pape, à un moment donné, a très conscient de tout cela, a essayé de ramener, un peu au milieu, quoi, au milieu du gué, quoi. Hein, le milieu du gué, parce que d'un côté, vous avez Dieu et l'autre, le côté humain. Alors, il faut rester dans le gué, quoi. C'est pas évident. Hein. Alors ensuite, c'est très important, c'est Constantinople III en 680. Ça, c'est très important aussi. C'est parce que va s'élever alors une question qui va être d'ailleurs Maxime le Confesseur va en être d'ailleurs un martyr, puisque on pensait qu'il y avait, et on est quand même dans le monophysisme là, on pensait que le Seigneur n'avait qu'une volonté et qu'un agir, et qui était uniquement celui de Dieu, toujours pareil. Alors, dans les études que faisait, ou la réflexion que faisait saint Maxime le Confesseur, pour lui, il y avait une réalité que les conciles avaient déjà, Chalcédoine avait affirmé, qu'il y avait une volonté qui était propre à Jésus et une volonté divine, qu'il y avait deux volontés. Alors pourquoi il le voyait ? Ben c'est qu'au moment de la passion du Christ, dans son agonie, il dit qu'il pliait, « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Donc il y a une volonté humaine de la part du Christ et de pouvoir après plier sa volonté à celle du Père. Mais il a une volonté propre, de même qu'il a un agir propre. Et ça, ça veut dire que c'était le dernier moment où on va affirmer que Jésus est vraiment homme. Il est vraiment homme dans sa nature humaine qui est complète, puisqu'elle est capable d'avoir une volonté et d'avoir un agir propre humain. Et que quand on est en présence du Christ, on est en présence vraiment d'un vrai homme, tout en étant vrai Dieu. Donc ce concile, et là, ça s'est mêlé avec des problèmes politiques, tels qu'il fallait à ce moment-là surtout ne pas affirmer ces deux volontés. Il y avait des problèmes d'empire, etc., politiques là-dedans, et c'est ce qui fait que Saint Maxime le Confesseur est devenu un martyr, ils l'ont traîné. Alors ils lui ont proposé à un certain moment, s'il abandonnait ses réflexions, qui faisaient que ça s'en allait avec une traînée de poudre, tout le monde attendait que ce que Maxime le Confesseur allait faire, allait dire, etc. Il avait une très grande portée sur tout le monde théologien et surtout à ce moment-là, sur toute la chrétienté. Et alors, il fallait surtout qu'il se rende aux nécessités de l'empereur à ce moment-là pour maintenir l'unité de l'Empire. Et alors, on lui a même proposé de devenir d'un patriarche de Constantinople. Et alors, le même qui lui a annoncé, si tu te tais, on t'élève à cette dignité-là.
Du chantage.
Et alors, lui, il lui dit, c'est la vérité qui implique. Et aussitôt après, on le bat et on l'emmène, on le déporte. Et alors, vous lirez ça, c'est magnifique, hein, si vous pouvez lire ça, ces derniers moments là de Saint Maxime le Confesseur, c'est extraordinaire, l'extraordinaire fidélité et vérité de cet homme. Quoi.
Ce sont les gens d'église qui l'ont tué ?
Oui. Ben oui. Oui, avec l'empereur, avec mêlé, avec parce que dans l'église et l'empire, c'était bon, alors c'est ça, hein, c'était mêlé quoi. Hein. Mais enfin, disons, c'est quand même... c'est pas complètement les gens d'église, parce qu'il avait derrière lui tout le monde monastique. Et ils avaient beaucoup confiance en lui, quoi. Et quand disait... Alors, tout le monde se disait, qu'est-ce que Maxime est en train de dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Etc. Et alors, lui, très conscient de cela... Moi je suis... attendez. Je suis ému, moi, profondément. Parce que je trouve que les moments de Maxime le Confesseur, pour moi, c'est les martyrs, quoi. C'est la vérité de ceux qui, au nom de leur foi, acceptent de mourir. C'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment... c'est pour ça que ça m'aimait beaucoup, moi, ça.
Où est-ce qu'on peut trouver ce récit, par exemple ?
On peut le trouver ?
Oui.
Où est-ce qu'on peut le trouver ? Il y a... on le trouve dans un des écrits de Maxime. Où est-ce que je l'ai lu, ça, déjà ? Je pourrais vous en donner la référence parce que je ne l'ai pas là en ce moment. Il y a effectivement, il y a toute cette histoire là d'abord de la rencontre enfin avec ce bonhomme chargé de lui dire de renoncer et les conséquences. Bon. Ensuite, le dernier, c'est Nicée 2. Qui autorise le culte des images, des icônes. 787. Voilà. Alors, le culte des images, ben, c'est quelque chose... Il y a des gens qui ont donné leur vie à ça aussi. Alors, pourquoi ? Alors, ben, d'un autre côté, l'Ancien Testament dit qu'on ne peut pas faire d'image. Et là, se développait déjà un désir d'avoir le visage du Christ, puisqu'il était, il était humain. On avait besoin aussi de voir son visage. Moi, je suis très, très marqué avec le Saint-Sieur de Turin, pour moi.
En même temps, il y a un lien entre le monophysisme, le monothélisme, le culte des images et le refus du culte des images.
Voilà, oui, là, automatiquement, oui. Oui, c'est ça. Et alors là, en fait, c'est une question christologique.
C'est ça.
Parce que le... Et même liturgique. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des images, des traits réels au niveau de l'Église, au niveau de la célébration, pour célébrer le Seigneur, qu'on aperçoit simplement à travers l'hostie, quoi. Est-ce que le peuple de Dieu n'a pas besoin d'avoir un peu plus que cela, quoi? Il y a tout ça dessous, quoi. Est-ce qu'on n'a pas besoin nous-mêmes de certaines images? On a besoin d'images. Les icônes, c'est en fait le mystère du monde céleste parmi nous.
Là, il y a des persécutions aussi.
Alors, des persécutions. Voilà. Alors, les persécutions qui ont été... Et les gens, hein, ça a duré longtemps, ces persécutions. Ça n'a pas été clair non plus pour arriver à discerner... Et c'est comment il s'appelle
Jean Damascène,
qui a donné le culte, qui a donné la raison du culte des images, hein, la vraie théologie du culte des images. Donc, ces sept conciles définissent l'essentiel de la foi chrétienne. Eh bien... Non. Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, Constantinople 2, Constantinople 3, Nicée. Non, ça va pas. Oui. C'est il y a trois Constantinople, c'est peut-être ça.
Bien. Jean-Damascène, on lui a coupé la main pour ne plus qu'il.
Qui?
À Jean Damascène, on lui a coupé la main pour ne plus qu'il peigne, et la Vierge Marie lui serait apparue et lui aurait redonné sa main pour qu'il continue à faire des images de la Vierge.
Oui, mais c'est surtout dire. Parce qu'il nous a donné quand même, au niveau théologique, une explication qui est restée pour justifier le culte des images. Alors, nous voilà donc héritiers de cette foi. C'est important de l'avoir revue parce que c'est ça, notre foi. Et nous devons y adhérer pleinement. Alors, pour cela, l'Église a créé, à partir de tout cela, elle a créé un symbole. Le symbole de Constantinople qui va mettre... en forme liturgique, la réflexion qui a été faite pour qu'on puisse le célébrer. Le mot symbole, il veut dire mettre ensemble deux parties qui ont été brisées d'un même objet. Sim, ensemble. Deux morceaux d'une même réalité. Le symbole de la foi va donc regrouper tout un ensemble de choses qui ont été définies dans une seule mouture. Et ce sera le symbole de Nicée-Constantinople et celui des apôtres. Alors il faut dire un mot sur celui des apôtres. Le symbole des apôtres ne remonte pas aux apôtres. Il apparaît en Gaule au 9e siècle, simplement. Et il a été adopté par Rome au 10e siècle. Il est totalement inconnu des chrétientés orientales. Et si nous utilisons ce symbole des apôtres, d'une certaine façon, on fait On va contre les églises orientales. En pratique, le symbole des apôtres est utilisé pour trois raisons, peut-être plus importantes. Premièrement, ça arrive toujours, il est plus court. Il est plus court. D'autre part, il ne parle pas de la consubstantialité parce qu'il veut éviter des mots difficiles. Et troisièmement, il est surtout incomplet et maladroit. Parce qu'il sépare le Saint-Esprit du Père et du Fils, il met le Saint-Esprit au même rang que l'Église. Et ça, c'est quand même une question très embêtante que cela existe. Hein. À la fin, je ne l'ai pas là, mais le texte même, il met... L'Esprit Saint, la Sainte-Église. Et il le donne, alors qu'il a déjà parlé des deux personnes divines, et il met le Saint-Esprit à ce niveau-là. Donc, il... c'est pas qu'il nie, mais enfin... Il ne défigure pas non plus, mais enfin, il y a une offense au Saint-Esprit, une certaine... C'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose... Je ne sais pas comment on peut le définir, mais enfin... Le symbole de Nicée-Constantinople, maintenant. Alors, ce symbole, n'ajoutez pas « et du Fils » quand on déclare, quand on parle du Saint-Esprit. La question du Saint-Esprit, c'est la grande question de l'Église. Ça, c'est la grande question et qui, encore aujourd'hui, divise l'Orient de l'Occident. On n'a pas encore réussi à trouver une entente suffisante sur la question du Saint-Esprit. On a ajouté, au départ, en disant que le Saint-Esprit intervient dans la génération mystérieuse du Fils par le Père. Et on a dit qu'ils étaient de même nature, qu'ils étaient consubstantiels, mais après on va apprendre que c'est le Père qui engendre son Fils, donc il est là premier comme un Père qui donne naissance à son Fils. Alors il faudra faire attention tout à l'heure parce que c'est pas vrai, ces mots-là conviennent pas, mais enfin le Père engendre le Fils. Alors est-ce qu'il l'engendre de sa propre initiative? Et nous disons, l'Occident a été amené à dire que dans cet engendrement, le Saint-Esprit intervient. Et alors on dira que le Père engendre son Fils par l'engendrement et du Saint-Esprit. On ajoute donc l'action du Saint-Esprit. Ce que l'Église d'Orient a toujours refusé, et cet ajout du Saint-Esprit s'est fait longtemps, je ne sais plus à quel siècle déjà, mais très tardivement, pendant très longtemps, le symbole de Nicée-Constantinople n'avait pas cet ajout. Parce que pour l'Orient, il n'y a qu'une source divine, on pourra en parler tout à l'heure, si on a le temps, dans une source divine où le Père engendre son Fils et, de la même façon, on va dire qu'il engendre le Saint-Esprit, mais pour le Saint-Esprit, on a pris un autre mot que le mot « engendrement » qui convient davantage au Fils, et on a parlé du mot « spiration ». Il spire le Saint-Esprit, la spiration du Saint-Esprit, qui est une autre œuvre du Père, qui vient du Père. Et alors lui, il est la seule source. Il n'y en a pas deux sources. C'est ce qu'on appelle la monarchie du Père, qui à la fois engendre son Fils et spire le Saint-Esprit. D'un même mouvement entre le fait d'engendrer, le fait de spirer, c'est une action de la paternité, de la première du Père, qui est donc la première personne de la Sainte Trinité. Alors on verra si on peut tout à l'heure un peu plus. Mais voilà. Donc, le mot filioque et du Fils n'a été ajouter, et c'est ce que reprochent les églises d'Orient, de l'avoir fait sans leur consentement. Et simplement, après, donc, disons, on a d'une certaine façon défiguré un peu le symbole de Nicée-Constantinople.
Était lié